Vite maintenant à suivre une nouvelle édition du programme de Patrice Gélinet, consacrée cette nuit à Napoléon II. Napoléon II ?
Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire.
Un coup de canon avait été prévu pour annoncer la naissance d'une fille, 101 pour un garçon. Si bien que lorsque les vieux canons de Gribeauval tirent pour la 22e fois dans Paris ce 20 mars 1811, tout le monde sait que Napoléon a désormais un successeur. Aussitôt, par télégraphe optique, la nouvelle se répand partout, bien au-delà des 130 départements français qui vont de la Baltique à la Méditerranée, de Hambourg jusqu'à Rome, préfecture du Tibre, où l'on sait déjà que le fils de Napoléon portera le titre de roi de Rome, héritier d'un empire de 100 millions d'habitants. Personne n'imagine ce 20 mars 1811 que dans 3 ans, cet empire aura disparu, bouleversant la vie d'un enfant exilé à Vienne en 1814 et qui ne portera jamais la couronne de son père.
Mon pauvre fils, que sont-ils en train de faire de lui à Vienne ? Un archiduc autrichien ?
Vous le reverrez un jour, sire, et peut-être bientôt.
Non, mon Montolon, je ne déballerai pas de Saint-Hélène. À cause de lui, précisément. Parce que mon martyr lui vaudrait une couronne. Parce qu'en mourant sur ce rocher, victime de la barbarie anglaise, je prépare le règne de celui qui s'appellera un jour Napoléon II.
Gonzague Saint-Brice, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écrire pour Talendier une énième biographie d'un homme qui a toujours fasciné les historiens et leurs lecteurs, Napoléon II, l'Aiglon, le duc de Reichstadt. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur Napoléon II ? Est-ce que c'est l'homme ? Est-ce que c'est le destin ? Est-ce que c'est le romantisme du personnage ? Il s'agit de vous, Gonzague Saint-Brice.
La confrontation entre la réalité de l'être humain et la fantasmagorie du mythe. Car, vous l'avez dit, l'Aiglon est l'héritier à sa naissance en 1811 du plus beau trône d'Europe, cette France qui a 130 départements, qui va de la Bretagne à la Suisse et de la Hollande à la Catalogne. Et il est le fils unique de Napoléon et de l'archiduchesse Marie-Louise. Il incarne tous les espoirs, mais il ne connaît pas, il ne peut pas connaître cette phrase d'Oscar Wilde qui le décrit. Tout symbole l'est à ses risques et périls.
Alors vous venez de le dire, il est le fils de Napoléon, mais aussi de Marie-Louise, qui est la fille de l'empereur d'Autriche. C'est vrai que c'est ça qui, dès le départ, déjà, fait de ce personnage un personnage tragique, presque shakespearien, parce qu'il est donc le fils de Napoléon, mais également le petit-fils d'un de ses pires ennemis, qui est l'empereur d'Autriche.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une scène très extraordinaire qui se passe pendant le congrès de Vienne à Dan, le congrès de Vienne, qu'on appelle aussi le congrès de Danse, et un Talleyrand, qui est passé de l'autre côté, du côté de l'empereur d'Autriche, est en train de se promener dans le parc de Schönbrunn, et on voit apparaître un petit garçon qui est l'Aiglon, et quelqu'un se tourne vers Talleyrand et lui dit, en voyant l'enfant et sa gouvernante, « Monseigneur, le reconnaissez-vous ? » Il dit « Non, je le connais, mais je ne le reconnais pas. » Et c'est vrai que c'est la double vie de cet Aiglon, qui est le fils de Napoléon, et c'est seulement vers l'âge de 20 ans qu'il va redevenir complètement le fils de Napoléon et qui reçoit cette éducation autrichienne auprès d'un grand-père qu'il aime beaucoup, qui est François d'Autriche, et qui peut-être, à cause de cette affection, va empêcher l'Aiglon de faire ce qu'a fait le Penchem Lama, c'est-à-dire de s'enfuir de Vienne.
On y reviendra, mais vous dites que Talleyrand le voit à Vienne. Pourquoi ? Parce qu'en 1814, donc, Napoléon abdique en faveur de son fils, qui sera bientôt nommé Napoléon II, mais le petit Napoléon II, avec sa mère, est parti à Vienne auprès de son grand-père.
Là, il y a vraiment un rendez-vous manqué entre Napoléon et sa femme Marie-Louise, qui, je le rappelle, était très amoureuse de son mari, de Napoléon. Et en fait, elle va, dans la France occupée, rejoindre son père. Et là, il y a vraiment quelque chose de terrible, parce que c'est sûr qu'avec la faveur du tsar de Russie et avec l'accord de l'empereur d'Autriche, Napoléon II, qui a été Napoléon II pendant 16 jours, aurait pu rester l'empereur des Français. Mais il y a quelqu'un qui est opposé à ça, de toute façon, qui est Metternich.
Oui, on en reparlera aussi. Mais donc, il est à jamais, ça, à 3 ans, il est à jamais séparé de son père, qui reviendra, il y aura les 100 jours, mais ensuite qui sera en exil à Sainte-Hélène. Et puis, il est également privé de ses titres, puisque pour les Autrichiens, eh bien, Napoléon II n'est plus ni roi de Rome, ni même empereur.
Duc de Reichstadt. Hein, Duc de Reichstadt, répétez, monseigneur. C'est le nouveau nom que Sa Majesté, votre grand-père, veut bien vous accorder.
J'ai déjà un nom, je m'appelle Napoléon.
Un nom, mais pas de titre. Votre chère maman a obtenu que Sa Majesté l'Empereur, en sa volonté, vous accorde celui d'Altesse Sérénissime.
Autrefois, j'étais roi de Rome.
C'était autrefois. Vous savez bien que vous l'êtes plus depuis 3 ans.
Pourquoi?
On vous l'expliquera plus tard, quand vous serez grand.
Il s'en passera des choses quand je serai grand.
Que voulez-vous dire?
Je prendrai mes canons, mes meilleurs soldats, et je vais délivrer mon papa.
Assez travaillé pour aujourd'hui, monsieur de Metternich. Laissez votre empereur jouer au grand air. Approche, mon petit Franz. Alors, que me veux-tu?
Vous poser une question, grand-père.
Je t'écoute.
Pourquoi mon père ne vient-il jamais me voir à Vienne?
Parce qu'il était méchant. Alors, on l'a mis en prison. Et toi, si tu es méchant aussi, on fera de même?
Alors quand le petit Napoléon II, quand le fils de Napoléon arrive à Vienne, il est pas dans une prison à proprement parler. Hein. Son grand-père l'adore, l'empereur d'Autriche l'adore, Gonzague Saint-Brice. Donc c'est l'exil, mais c'est pas la prison.
Tout à fait, il n'a rien de comparable avec l'affreuse destinée de Louis XVII. Je rappelle que Louis XVII a aussi une mère autrichienne et un père français, comme l'Aiglon, qui a une mère autrichienne et un père français. Non, c'est une prison dorée, qui est d'abord la Hofburg, le palais qui est à l'intérieur de la ville de Vienne, et ensuite, dans les temps d'été, c'est le palais de Schönbrunn. Alors, mais en même temps, cet extrait qu'on vient d'entendre est intéressant, parce qu'il montre la vivacité de ce petit garçon qui est vraiment intelligent, qui est vraiment ouvert à tout, et qui a vraiment ces réflexions qu'on vient d'entendre. Et bien sûr, il est loin de sa mère, à qui on a fourni un amant qui est von Neipperg. Et d'ailleurs, il y a un mot de Chateaubriand en disant que Neipperg a été placé ses œufs dans le nid de l'aigle, donc chez la mère de Napoléon, et la femme de Napoléon et la mère de Napoléon II. Et en même temps, cet enfant est très, très vif, très intelligent. D'ailleurs, à un moment, quand il est malade, on lui demande des nouvelles de sa santé, et il a ce mot merveilleux, j'empire.
Alors, cela dit, on transforme complètement en quelque sorte ce garçon. Vous écrivez que ce vilain petit canard français doit être transformé en beau cygne autrichien, et on le prépare même à une carrière militaire, à être officier, ce qu'il sera bientôt, évidemment, et ce que craignait évidemment son père sur son lit de mort à Sainte-Hélène en 1821.
Je recommande à mon fils de ne jamais oublier qu'il est né prince français. Il ne devra jamais combattre ni nuire en aucune manière à la France. Il doit adopter ma devise, tout pour le peuple français. Que le souvenir de ce que j'ai fait ne l'abandonne jamais. Qu'il fasse éclore ce que j'ai semé. Mon fils.
Alors c'était donc Napoléon sur son lit de mort dans cet extrait de film, Napoléon qui est mort le 5 mai 1821. On n'a pas caché à son fils, qui avait 10 ans à l'époque, la mort de son père.
Non. Et au fur et à mesure de 10 ans à l'âge de 20 ans, l'Aiglon va prendre connaissance de tout ce que son père a fait. Il va le faire d'abord avec les gens qui l'élèvent.
Parce qu'on a dit longtemps, hein, ça c'était une légende qu'on a entretenue, on lui avait tout caché, hein, y compris ses origines, la gloire de son père, etc.
C'est
faux, on s'en est rendu compte
plus
tard. Oui.
Et quand il a un aide de camp qui s'appelle Prokesh et qui est un spécialiste de la stratégie de Napoléon, il révise toutes les batailles de son père qu'il connaît par cœur. Et vers l'âge de 20 ans, il va arriver une chose extraordinaire, c'est que Marmont, le duc de Raguse, qui autrefois a trahi son père et qui est un ami de Metternich, le français Marmont, vient à Vienne. et il va demander à rencontrer le fils de son compagnon, parce que Marmont a débuté avec Napoléon dès Toulon. Mmh. Et là, ça va être une rencontre étonnante, puisque l'Aiglon va voir un compagnon de l'épopée de son père, va le questionner longuement, et Marmont va se rendre compte à quel point l'Aiglon sait tout de son père. D'ailleurs, c'est frappant que ce garçon de 20 ans a maintenant, à l'âge de 20 ans, toutes les attitudes physiques et les gestes de son père.
Physique, non, parce que quand même, il est très blond. Enfin, il y a son portrait la couverture de votre livre, Gonzague Saint-Brice. Il est extrêmement grand, il est 1m90.
Il est magnifique, il a les yeux bleus, il a le front bombé, il a le nez aquilin, il a les lèvres minces, mais il a les attitudes de son père. Mmh. Et tout le monde dit, mais comment ça se fait qu'il marche comme son père, avec le bras derrière le dos? Enfin, il a étrangement les attitudes de son père.
Et beaucoup aux femmes, d'ailleurs. Hein,
il a un succès fou auprès des femmes. Celle qui va être peut-être la plus frappée par son charme, c'est Sophie de Bavière, qui craque pour lui, comme toutes les femmes de Vienne. Peut-être d'ailleurs, on le dit quelquefois, peut-être que l'Aiglon est le père naturel de Maximilien d'Autriche, le fils de Sophie de Bavière. Et puis bien sûr, il y a beaucoup de femmes dans sa vie. Il y a l'actrice Fanny Hessler, la comédienne Thérèse Pêche, la jolie comtesse Pisani, d'origine circassienne, qui a été rachetée par son mari à des bohémiens à cause de sa beauté.
Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Napoléon II.
Et une valse de Johann Strauss, une valse que d'époque, d'ailleurs que dansait peut-être Napoléon II, à une époque où déjà, même s'il ne s'en rend pas compte, Gonzague Saint-Brice, il intéresse beaucoup de gens très loin de Vienne.
Oui, c'est ça qui m'a aussi vraiment passionné, parce que je crois qu'à l'orée du 21e siècle, c'est bien de revenir sur l'Aiglon. C'est un personnage, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, virtuel. C'est un prince virtuel. Et au moment où toutes les révolutions libérales éclatent en Europe, on rêve de Napoléon II. Mmh. Les Grecs le voudraient pour roi.
On lui a proposé, d'ailleurs, on a pensé le nommer, enfin son grand-père, l'empereur d'Autriche, avait pensé le nommer roi de Grèce. Oui.
Tout à fait. Les Belges qui vont prendre un Saxe-Cobourg le voudraient pour roi.
Polonais aussi, je crois.
Il y a beaucoup de passion pour lui en Pologne, beaucoup d'intérêt pour lui en Italie, où il a d'ailleurs des cousins qui sont des Carbonaro, et même en France, puisque les ouvriers clament son nom, et que finalement, il aurait été possible qu'il soit Napoléon II à la place de Louis-Philippe. Donc, vraiment, il a la virtualité d'être un prince européen, et finalement, son destin aurait pu être celui qui va être celui de son cousin, Napoléon III, qui lui écrit d'ailleurs deux lettres que je cite dans ce livre, Louis-Napoléon Bonaparte, qui lui est un voyou et qui n'a pas peur de rater ses coups d'État à Boulogne avant de réussir le coup d'État.
On y reviendra. Vous avez mentionné effectivement Louis-Philippe, c'est 1830, c'est la révolution 1830 qui chasse les Bourbons, qui amène Louis-Philippe sur le trône, et c'est vrai que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Hein. Louis-Philippe a été amené in extremis sur le trône, mais il y a des gens qui sont morts sur les barricades en criant « Vive Napoléon II !» Lui, il est à Vienne, il s'en rend peut-être pas compte, parce que quand même, pour revenir en France, il faut d'abord surmonter l'obstacle énorme qu'est à Vienne Metternich.
Tout à fait, c'est Metternich qui veut.
Metternich qui le chapeaute, qui l'empêche en fait de sortir. D'une certaine manière, il est dans une prison dorée, mais c'est quand même une prison.
Il est persécuté par Metternich, qui a été humilié par Napoléon Ier. Et en fait, c'est vraiment dommage, parce que avec l'appui de son grand-père et avec le désir des Français, il aurait pu être véritablement Napoléon II. D'ailleurs, son grand-père lui dit, il suffirait que tu te présentes sur le pont de Strasbourg pour que la France veuille de toi.
Mmh. Alors justement, il y a des gens qui y pensent à Paris, les bonapartistes ne rêvent que d'une chose, c'est de faire revenir le jeune Napoléon II, le fils de Napoléon, à Paris. Écoutez un de ces complots de quelqu'un qui est venu le chercher, ou qui serait venu, selon ce film, le chercher à Vienne.
Prince, nous n'avons pour nous entretenir que le temps d'un entracte. Dans toute l'Europe, des hommes fidèles à la volonté de votre père se battent et meurent chaque jour pour vous. Que puis-je faire ? Votre père avait pour habitude de répondre à ce genre de questions avant de les poser. Il a fui l'île d'Elbe. Il aurait fui Sainte-Hélène. Sans vous, l'occasion lui en a été offerte, mais il l'a rejetée. Il voulait que son martyr vous assurât une couronne. Le moment est venu où cette prédiction est sur le point de se réaliser. Encore faut-il que vous n'y fassiez pas obstacle.
Les obstacles, monsieur le comte, sont autour de moi, et non en moi. Vous ne pouvez l'ignorer.
Alors, brisez-les.
Alors, c'est un extrait du film L'Aiglon de Claude Boissol, dans lequel ce serait Montholon, joué par Jean Marais, qui serait venu chercher à Vienne Napoléon II, Gonzague-Saint-Brice. En réalité, je ne suis pas sûr que ce soit exact, mais il y a eu des gens qui sont venus chercher.
Tout à fait. Et il y a vraiment une démarche très, très efficace, pas jusqu'au bout, mais sérieuse, de la part de Camerata Napoléon, qui est la cousine de L'Aiglon, et qui est un peu la George Sand de la famille. Elle porte pantalon, elle fume presque le cigare, et elle vient, elle parvient à croiser une ou deux fois le duc de Reichstadt, et elle lui dit, mais elle le force à réagir. Et elle lui écrit aussi une lettre, qui lui est transmise par son aide de camp, et lui a peur de cette aventurière, qui est-elle vraiment, qu'est-ce qu'on veut lui faire faire ? Il prend conseil, vous voyez, il ne se détermine pas assez rapidement.
On a le sentiment justement d'un homme assez veule, enfin qui n'a pas du tout, c'est pas son père au pont d'Arcole, là, il n'ose pas franchir le Rubicon en quelque sorte.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le père et le fils. Le père est né aventurier, le fils est né prince. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que le fils n'a pas cet esprit, et puis il ne veut pas peiner son grand-père qu'il aime tant, qui est l'empereur François. Et en fait, c'est un peu ce que, en tant que biographe, je lui reprocherais. Mmh. Parce qu'on s'impatiente, quand on lit les documents, de voir qu'il ne réagit pas. Puisque même les gens qui sont chargés de le garder comme Prokesh lui donnent l'idée de s'enfuir.
Mais faisons un peu d'histoire-fiction. Imaginez qu'il ait quitté Vienne, qu'il soit rentré à Paris. D'abord, est-ce qu'il aurait été accueilli avec autant de ferveur qu'on le dit? Et puis, qu'est-ce qui se serait passé?
Moi, je crois qu'il aurait été accueilli avec une très grande ferveur. Il était le héros de la synthèse. Il était au fond entre le conquérant militaire qui était son père et le conquérant social qui était son cousin, l'auteur Louis-Napoléon Bonaparte, l'auteur de l'extinction du paupérisme, et il aurait pu être ce fabuleux empereur de la paix, parce qu'il a été élevé pour être un officier, et il croyait lui-même qu'il allait conquérir ses titres de gloire en étant un soldat, mais en vérité, qu'est-ce qui s'est passé dans le Second Empire, où il aurait pris sa place? Il aurait été l'empereur de la paix et l'empereur de la prospérité économique. La paix, il l'aurait eu facilement puisqu'il était des deux camps à la fois, et la prospérité économique, elle est venue dans ces années où il y avait un château par commune de France et où 20 ans après, il y avait trois châteaux par commune de France.
Cela dit, Gonzague-Saint-Brice, il ne serait pas resté très longtemps empereur parce qu'il est déjà malade, hein. c'est un homme maladif.
Justement, autre question très intéressante, cette tuberculose qu'il avait, alors maintenant, aujourd'hui, on se penche sur le mystère des maladies, est-ce qu'elle aurait eu une telle accélération puisqu'il est mort à 21 ans, ou est-ce que peut-être par le bonheur de sa vie et la réussite de sa carrière, elle aurait reculé? En tout cas, c'est vrai qu'il est mort tuberculeux à 21 ans à Vienne.
Le 22 juillet 1832, c'est vraiment effectivement un personnage très romantique. Hein. Il est mort de la maladie des romantiques, Gonzague-Saint-Brice.
La maladie des romantiques, cette tuberculose dont est mort aussi Louis XVII, dans des conditions beaucoup plus affreuses, mais cette maladie des romantiques qui exaspère les sentiments et aussi les sens, puisqu'il faut savoir que ceux qui ont cette maladie sont très portés vers le beau sexe et toujours dans le vif du sujet.
Oui, mais très romantique et même désespéré. On a presque le sentiment qu'il s'est laissé mourir. Hein. Il y a cette formule qu'on a entendue au tout début des émissions, ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. C'est un personnage très désabusé qui meurt en 1832.
Il ajoute même, entre les deux, il y a un grand zéro.
Et alors justement, c'est à ce moment-là que la légende prend encore plus d'ampleur, une légende d'ailleurs qui était née de son vivant et qui avait inspiré de très nombreux écrivains, la revue de texte de Stéphanie Duncan.
Oui, en 1828 déjà, l'enfant Napoléon, donc 17 ans à l'époque, un écrivain français, Auguste Barthélemy, se rend à Vienne pour rencontrer le prince. On ne sait pas si cette rencontre a vraiment eu lieu. En tout cas, il compose à son retour un poème qui va contribuer à créer la légende de l'Aiglon, héros à la pâleur romantique. À la cour de Pyrrhus, dit-il, j'ai vu le fils d'Hector. Je ne puis sans douleur contempler ce visage éclatant de pâleur. On dirait que la vie à la mort t'y mélange. Quel germe destructeur sous l'écorce agissant a sitôt défloré ce fruit adolescent. Alors Barthélemy oppose la grandeur du père Napoléon à la faiblesse du fils. Légataire du monde, en naissant roi de Rome, tu n'es plus aujourd'hui que le fils de l'homme. Alors, soupçonné de bonapartisme, le livre de Barthélemy est aussitôt saisi en France et au procès, l'auteur se défend en invoquant la mémoire de l'empereur. Et l'on ne pourrait pas imprimer qu'il a un fils et que ce fils est captif. La légende du prince prisonnier est donc née, une légende qui ne fait que s'amplifier avec sa mort donc en 1832. Il est mort, le pauvre jeune homme, écrit la Revue des Deux Mondes, parce qu'il s'est dévoré lui-même, parce que l'air lui a manqué dans cette cour dont on lui avait fait un cachot. Alors on édite même partout en France des portraits du prince avec des commentaires du genre « Meurs en paix, pauvre Aiglon, dont l'ardente prunelle réfléchit un moment la flamme paternelle ». Et l'écrivain allemand Heinrich Heine, de voyage en France à ce moment-là, n'en revient pas de cette ferveur populaire. Partout où j'allais, dit-il, je trouvais dans le peuple un égal chagrin. Dans chaque chaumière, il y a une image du fils de l'empereur, couronnée d'immortels, comme celle du sauveur pendant la Semaine Sainte. Beaucoup de soldats portaient un crêpe. Un vieillard à jambes de bois me serra la main tristement en me disant « À présent, tout est fini ». Et bien sûr, Victor Hugo, qui n'aime pas être en reste, s'empare à son tour de la légende. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux, je dirais, comme verbe, vraiment. Ça, c'est mon opinion. Tous deux sont morts, Seigneur. Votre droite est terrible. Vous avez commencé par le maître invincible, par l'homme triomphant, puis vous avez enfin complété l'ossuaire. 10 ans vous en suffit pour filer le suaire du père et de l'enfant. Et bien évidemment, plus tard, il y aura l'Aiglon d'Edmond Rostand, créé par Sarah Bernhardt en 1900. Je ne vous ferai pas Sarah Bernhardt, hein. Je vais plus simple. Eh bien, moi, sans pouvoir, sans titre, sans royaume, moi qui ne suis qu'un souvenir dans un fantôme, moi, ce duc de Reichstag, qui triste, ne peut rien qu'errer sous les tilleuls de ce parc autrichien. Mais j'espère, j'imagine, il me semble enfin que fils d'un père auquel un firmament a passé par les mains, je dois, malgré tant d'ombre et tant de lendemains, avoir au bout des doigts un peu d'étoile encore.
Ben c'est beaucoup mieux que Sarah Bernhardt, Stéphanie. Et Sarah Bernhardt, je rappelle qu'en 1900,
eh bien,
avait 30...
moi, sans pouvoir.
Elle avait 30 ans, je crois, de plus que Napoléon II. Hein.
Oui, mais voyez, ce poème, le premier que vous avez cité de Barthélemy, c'est pas un très grand poète que Barthélemy, mais il a effectivement croisé l'Aiglon le soir dans un théâtre à Vienne. Et c'est quand même le début de cette prodigieuse légende. Vous savez que l'expression « le fils de l'homme » qu'il emploie pour Napoléon n'avait été employée jusqu'alors que pour le Christ. Et en même temps, employons des mots d'aujourd'hui, c'est la diffusion d'une icône, d'une image, cet Aiglon. Et en même temps, on sait qu'il y a une technique d'imprimerie, la lithographie, qui vient de naître. Et c'est pour ça que les portraits de l'Aiglon partent vers le monde entier.
Mais vous parlez aussi beaucoup, vous consacrez même un chapitre à cette pièce de Rostand, à l'Aiglon, c'est extraordinaire, il y a eu 30 rappels à ce moment-là. À quoi ça correspond cet engouement pour Napoléon II, 70 ans après sa mort?
Eh bien, justement, il y a une raison historique à cela, qui est l'Alsace-Lorraine. Et au fond, il y a une espèce de transport intérieur des Français et des spectateurs de la pièce de Rostand, qui est fabuleuse, vers l'actualité. L'actualité, c'est qu'on nous a enlevé l'Alsace-Lorraine, comme on nous a enlevé l'Aiglon. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'écho immense qui explose dans le succès de cette pièce.
Alors, l'Aiglon reviendra, il faut le dire, Gonzague Saint-Brice, beaucoup moins glorieusement, parce qu'il va revenir le 15 décembre 1940, transporté par la Wehrmacht. Hein, c'était un gage, je crois, de collaboration. C'est un peu triste, le destin de l'Aiglon, même y compris 110 ans après sa mort en 1940.
C'est une scène véritablement sinistre qui se passe dans un hiver de guerre, pendant l'occupation. Et effectivement, c'est affreux parce que à la gare de l'Est arrive un train plombé avec le cercueil de l'Aiglon, bien sûr escorté par la Wehrmacht et même par les SS. Et se retrouve aux Invalides, avec quelques grands collabs.
C'est aux Invalides, à l'église Saint-Louis, je crois, oui,
effectivement. À la crypte. Avec quelques collaborateurs fameux et aussi quelques personnes très bien qui sont là, de la famille impériale, et aussi un jeune historien qui s'appelle André Castelot. Mais c'est, encore une fois, on peut dire que l'Aiglon a raté sa sortie, il n'y est pour rien. Mais là, il y a au pied du cercueil une gerbe de fleurs du chancelier Adolf Hitler.
Et il faudra attendre 1970, c'est-à-dire encore 30 ans après, pour que l'Aiglon retrouve sa place naturelle aux côtés de son père, de Napoléon, aux Invalides, justement. Son père, dont on vient de découvrir, bon, il ne reste quelques secondes, qu'il avait été empoisonné à Sainte-Hélène, Gonzague-Saint-Brice.
Oui, ça, c'est une thèse qui vient des États-Unis et qui pourrait être vraie. Il faudrait qu'il y ait eu complicité d'un Français, on accuse Montholon, auprès de Hudson Lowe pour cet empoisonnement à l'arsenic.
Bon, ça, ce qui prouve une fois de plus, on l'a déjà vu avec Louis XVII, que la science peut effectivement encore apporter des éléments que l'on ne connaissait pas à l'histoire. En tout cas, merci Gonzague Saint-Brice, nous a rappelé l'histoire brève de Napoléon II, du fils de Napoléon Ier. Vous le faites très bien dans ce livre, Les 20 ans de l'Aiglon, donc une biographie qui vient de paraître aux éditions Talendier. Puis vous êtes également auteur d'un site internet, je crois.
Qui ouvre vendredi qui vient, et qui s'appelle Libre Édition, un site fondé sur le levier le plus puissant, le plus répandu en France, le plus noble, le désir d'écrire. Il y a 7 millions de Français qui écrivent.
Libre Édition, donc en un seul mot. À lire également L'Aiglon d'André Castelot dans la collection Présence de l'Histoire, Napoléon II de Jean Tullard, une biographie excellente de Fayard, Jean Tullard qui a préfacé votre livre, et enfin L'Aiglon, bien sûr, d'Edmond Rostand, disponible en livre de poche folio chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits du film de Claude Boissol, L'Aiglon, disponible en cassette vidéo, avec Jean Marais dans le rôle de Montholon et Bernard Verlet dans celui de L'Aiglon. Je rappelle que vous pouvez également nous contacter par internet, www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, et puis téléphoner également au 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Philippe Duclos et Andréa Jaffré, documentation Elsa Boubille et Christy